Ce monde me rend fou, ce monde vous rend fou, Christophe Bourseiller.
Exact.
Ah, oh, tu m'as manqué.
Je le vois jamais, quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou, mon putain de cousin. Si ce malin ne signe pas ce pacte très vite, on est mort.
Il faut juste signer là dans la petite case.
Il a signé.
Vincent Lindon, François Damiens, dans le film Mon cousin qui vient de sortir. Pourquoi cet extrait, Christophe ?
Ah bah écoutez, c'est tout à fait surprenant, Eric, parce qu'en fait, pour moi, ce film de Yann Kounen qui vient de sortir, Mon cousin, je le trouve à contre-courant de la plupart des films qui mettent en scène des chefs d'entreprise. Parce que, vous savez, en général, au cinéma, le patron, comme on dit, c'est un vampire inhumain, abject, qui fait vivre ses salariés dans un camp de concentration nommé l'entreprise, dont il est, pour résumer, le bourreau nazi.
Non, Christophe. L'entreprise, camp de concentration tenu par un bourreau nazi, ça, Christophe, je ne peux pas vous laisser le dire.
Mais vous avez raison, mais j'aimerais exagérer, Eric. Mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que prenez par exemple « Violence des échanges en milieu tempéré » de Jean-Marc Boutou, « Ressources humaines » de Laurent Canté ou « La loi du marché » de Stéphane Brisé, vous y verrez dépeint un univers totalitaire. Les personnages se noient dans les eaux glacées du calcul égoïste, et là vous noterez que je cite Marx. Hein. Voilà, bon, bref. Or, de quoi parle mon cousin ?
Ce sera la seule fois de l'année, mon cousin.
Cousin qui vient de sortir, c'est l'histoire d'un PDG. Alors, ce PDG se voit obligé donc de composer avec son cousin, donc, une sorte de double créatif. Et c'est là où c'est intéressant. Il va littéralement sauver son entreprise en révolutionnant les méthodes de management. Place à l'intuition, aux prises de décisions collectives, au respect de l'environnement, place au care, à l'attention à l'autre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un tel regard sur l'entreprise n'est pas si courant de nos jours.
Oui, mais le film ne porte pas réellement sur l'entreprise.
Oui, en effet, Patricia, c'est tout à fait juste. C'est l'histoire de deux cousins, donc incroyablement dissemblables, qui se révèlent parfaitement complémentaires. C'est une sorte d'éveil à la vie très poétique. Mais tout ceci se passe quand même dans le monde de l'entreprise. On n'en sort pas. Et ce n'est pas tout. Cette rentrée littéraire 2020, elle se place curieusement sous les auspices de la bourgeoisie. On y parle encore et encore de cette classe Oni qui semble fasciner tout le monde. Camille de Toledo explore dans Thésée sa vie le personnage d'Antoine Ribou, fondateur du groupe Danone, qui n'est autre que son grand-père. Il le dépeint largement comme un visionnaire, comme un humaniste. Éric Reinhart, dans la deuxième partie, la première est un peu différente, de son gros roman Destin français, part en croisade contre Ambroise Roux, le PDG en son temps de la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, qui aurait tout fait pour empêcher que le web soit une invention française, en convainquant le président Valéry Giscard d'Estaing, vous me suivez, de ne pas s'impliquer dans une alliance qui aurait pu mener à la création d'un Airbus européen de l'informatique. Bon, je résume. Hein. Mais il parle aussi d'Ambroise Roux comme d'un père de famille, protecteur et attentif aux siens. Bref, cet automne, la littérature et le cinéma avouent leur fascination pour les PDG.
Ouais, c'est la dimension critique, hein, finalement, qui l'emporte.
Ah mais bien sûr, Eric, et c'est flagrant dans un autre roman de la rentrée dont le titre assez direct résume la teneur, Salbourge. Dans ce roman cruel, le personnage principal, qui est issu de la bourgeoisie, se voit littéralement anéanti, grignoté par son milieu d'origine. Bien au-delà de l'entreprise, c'est la bourgeoisie elle-même, avec les rites surannés, le voussoiement des proches et les châtiments corporels sadiques qui se voient ici épinglés. Il faut dire que le héros vit tout au long du récit une épouvantable descente aux enfers et qu'il a le plus grand mal à s'émanciper de cette violence fondatrice qui est selon lui l'apanage de la bourgeoisie. Il en vient d'ailleurs à frapper sa compagne et à se retrouver interné en psychiatrie. Donc c'est beaucoup. Alors, est-elle haïssable ? Là, je vais conclure. Est-elle haïssable, la bourgeoisie ? Bah, tout le monde en parle, tout le monde la commente et en fait ses choux gras. On disait naguère de la France pompidolienne et chabrolienne qu'elle incarnait la quintessence de la bourgeoisie dégénérée, mais on s'aperçoit qu'au temps de Macron, la bourgeoisie continue à régner dans la pénombre de nos âmes. Est-elle nécessairement sadique et inégalitaire ? Les différentes œuvres de la rentrée prouvent que le tableau est beaucoup plus contrasté.
Contrasté, comme vous l'êtes, Christophe Bourseiller,
oui,
en direct.
C'est ce qu'on appelle le charme discret de la bourgeoisie.
Exactement. En direct de Bastia. Et merci au relais et aux effectifs techniques de France Bleu Corse, Frequenza Mora.